Un pompier blessé, une maison détruite et plus de 1500 hectares de végétation partis en fumée. Boulou Paris continue de faire face à un incendie qui s'est vu dans le secteur de Wichambo. 3 enfants blessés après des caillassages sur une école de Dimbéa-sur-Mer. Consternation et indignation des équipes pédagogiques de l'établissement à la suite de ces nouveaux faits. Les élus de la province sud seront réunis demain pour le débat d'orientation budgétaire au moment où les collectivités subissent l'impact des violences insurrectionnelles de ces derniers mois. Le projet de loi du pays pour interdire les emballages plastiques des denrées alimentaires en Calédonie reporté à 2040, une mesure prématurée pour le territoire selon le gouvernement. Le vaisseau des sciences fait escale à l'université aujourd'hui, la fête de la science qui tient son rendez-vous jusqu'à 20h sur le campus. Et en sport, nouvelle couronne de championne de France junior pour Phoebe Rocher en kitesurf freestyle. La compétition continue pour les Calédoniens sur les eaux de Port-le-Cat en métropole. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité, plus de 1500 hectares de végétation partis en fumée dans l'incendie de Boulou Paris. Les pompiers sont toujours sur le front et tentent de maîtriser le feu qui ravage la commune, Léana Colombo.
Cet incendie qui a débuté lundi a déjà fait beaucoup de dégâts. Une habitation a été détruite par les flammes en bordure de la RP4 et un sapeur-pompier du SIVM Sud a été légèrement blessé. Plusieurs exploitations agricoles ont été particulièrement détruites et des familles ont été évacuées par mesure de sécurité. Plus tôt dans la journée, les pompiers tentaient de contenir l'incendie vers Bouraké. Ils se concentrent désormais sur la zone de Wichambo. Écoutez le capitaine Maël Kerleger, responsable de l'intervention pour le SIVM Sud.
Le feu a baissé en intensité, on a eu moins de progression que précédemment. Pour autant, on a eu encore des habitations qui ont été menacées par les sinistres que nous avons dû protéger avec des personnes évacuées par nos moyens. Le vent, il est peut-être un peu moins fort, mais il a continué à être tournant dans la journée. Il ne nous a pas facilité le travail. Sur Bouraké, nous avons plus de fumerolles actuellement de visibles. On est revenu du côté de Wichambo et notamment près de la route provinciale numéro 4 vers Nassira. L'hélicoptère bombardier d'eau a quitté les lieux de l'intervention à 16h après avoir fait plusieurs largages. Nous avons actuellement 50 pompiers qui ont été mobilisés sur les lieux de l'intervention avec des renforts supplémentaires de la sécurité civile, des pompiers de l'aérodrome de Magenta qui sont venus nous renforcer. Donc voilà, on a aussi des effectifs qui n'ont été plus favorables pour nous dans la lutte aujourd'hui.
Le maire de Boulou Paris, Pascal Vittori, évoque également des dégâts sur les réseaux d'eau et électrique et remercie les habitants de la commune pour leur aide.
On a des réseaux, des compteurs d'eau, des compteurs électriques, des lignes électriques, des barrières, puis des pâturages qui ont été impactés, bien sûr. Et c'est pas facile parce qu'en ce moment, pour les agriculteurs, c'est déjà une période difficile. Ils doivent se battre contre la sécheresse. Et là, en plus, cet incendie, on n'avait pas besoin de ça. Je voudrais remercier l'ensemble des pompiers, à la fois professionnels et volontaires, et puis tous les habitants de Boulou Paris qui ont mis leur matériel à disposition, parce que l'étendue du feu est tellement importante, et avec un vent qui tourne, un feu qui part dans toutes les directions, que même en renforçant les moyens pompiers, on n'y serait pas arrivé sans les bénévoles. Donc un grand merci à eux.
Depuis 7h30 ce matin, le président du gouvernement, Louis Mapou, a activé le dispositif hors sec feu de forêt de niveau 2 et a pris la direction des opérations de secours. La circulation est possible dans la zone, mais toujours avec prudence.
Un incendie signalé également aujourd'hui à Dimbéa-Rivière. 15 hectares de végétation sont partis en fumée. Un incendie volontaire, selon les pompiers, qui a nécessité le déploiement d'une quinzaine de soldats du feu, aidés de 3 véhicules lourds, d'un véhicule léger et de la sécurité civile. Ils ont circonscrit les flammes en 3 heures. 2 habitations ont été protégées. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de cet incendie. Le report des élections provinciales devant le Sénat la nuit prochaine pour nous. Au lendemain de l'avis favorable du Congrès, la Haute Assemblée va examiner le projet de loi organique qui reporte le scrutin jusqu'en novembre 2025. Elisabeth Noir.
Le gouvernement s'est appuyé sur une proposition de loi organique d'initiative socialiste pour faire aboutir ce report, qui est un engagement du Premier ministre Michel Barnier dans sa déclaration de politique générale. Après son adoption par le Sénat, le projet de loi organique sera transmis à l'Assemblée nationale, qui l'examinera au pas de charge le 6 novembre prochain, avec l'objectif d'une promulgation rapide. Le temps presse en effet, puisque ces élections, qui devaient à l'origine se dérouler le 12 mai 2024, doivent, en l'état actuel, être organisées avant le 15 décembre de cette année. La décision de reporter le scrutin a quasiment fait l'unanimité hier au Congrès de la Nouvelle-Calédonie en raison des difficultés pratiques d'organiser ces élections dans le contexte actuel, d'autant plus que ces provinciales sont liées à la question de l'élargissement du corps électoral qui qui est un impératif juridique et politique. Ce délai supplémentaire doit donc permettre d'aboutir à un accord global avant l'organisation des provinciales, des élections qui auront donc lieu fin novembre 2025, soit 18 mois après leur date initiale.
Et la question du corps électoral suscite des tensions entre les indépendantistes radicaux, avec un échange de communiqués entre le collectif de défense des intérêts des habitants de la tribu de Saint-Louis et le président du groupe UCFLNKS et nationaliste au Congrès, Elisabeth.
Pour le collectif de la tribu de Saint-Louis, Eugène Décoré et Johan Wamiton mettent en effet en cause les récentes déclarations de Pierre-Chanel Toutougoro à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Outre-mer. Le chef de groupe UCFLNKS au Congrès a en effet affirmé que le dégel du corps électoral n'est pas un sujet prioritaire. Des propos qui suscitent la profonde indignation et la condamnation ferme du collectif de la tribu de Saint-Louis, qui accuse Pierre-Chanel Toutougoro de faire preuve de désinvolture. Pour le collectif, la question du dégel du corps électoral est un sujet central qui ne peut être relégué au rang d'un simple dossier parmi d'autres. Et le collectif met en garde Pierre-Chanel Toutougoro contre toute tentative de réitérer de telles déclarations publiques irresponsable et blessante, dont il ne mesure ni la portée, ni les conséquences. Une mise en cause à laquelle a tenu à répondre le chef de groupe UCFLNKS, qui regrette que ses propos aient été volontairement tronqués et déformés pour nourrir une polémique dont l'objectif, dit-il, semble davantage de porter atteinte à sa réputation que d'apporter une solution constructive à la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Il précise que ses propos ne visent pas à minimiser l'importance de la question du corps électoral, mais à souligner que dans la lutte pour l'indépendance, la priorité absolue pour les indépendantistes responsables reste de parvenir à l'aboutissement de la trajectoire de décolonisation. Extraire mes propos de leur contexte, comme l'a fait ce communiqué, est un exercice mortifère, écrit Pierre-Chanel Toutougoro, qui regrette que cette polémique, basée sur un délire d'interprétation, vienne semer la division à un moment où l'unité est plus que jamais nécessaire. Bref, ambiance entre les indépendantistes les plus radicaux.
Justice, la Cour de cassation a examiné la nuit dernière les recours de 5 militants de la CCAT qui contestent leur placement en détention provisoire en métropole. La Cour de cassation a cassé la décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nouméa concernant Christian Stéhin et Steve Houneux au motif d'une rupture de confidentialité au moment d'entretien en visioconférence entre les accusés et leurs avocats avant une audience en juillet dernier. La Cour de cassation a donc donné raison sur ce point à Christian Stéhin et Steve Houneux. Il reste évidemment une décision provisoire puisque leur recours concernait la décision de les incarcérer en métropole. La décision n'affecte donc pas la régularité de leur mandat de dépôt. La décision de la Cour de cassation implique que le cas des deux accusés sera de nouveau examiné par une cour d'appel. Et toujours sur ce volet, Joël Tchibaou, qui était incarcéré au camp Est, a été remis en liberté dernièrement et placé sous contrôle judiciaire. Guillaume Vama, qui est en détention provisoire en métropole, a lui aussi demandé sa remise en liberté. Le dossier sera examiné ce soir en visioconférence. 3 enfants touchés après des jets de pierre à l'école catholique de Dimbéa-sur-Mer. Hier, aux alentours de midi, des jeunes ont tenté de caillasser les caméras qui surveillent l'arrière de l'école. Et par ricochet, 3 enfants ont donc été blessés. Ils présentent des hématomes. Des plaintes ont été déposées par les parents. Ce matin, l'ensemble de l'équipe d'encadrement de l'école organisait un débrayage pour, je cite, « marquer leur colère ». Marielle Calonnet est la directrice de l'école.
Ah, ça m'a fait très peur, j'ai été extrêmement choquée. C'est la première fois que ça arrive, donc le vandalisme, on sait, je banalise pas, hein, il y en a. Là, on a des touchés à des enfants, et c'est inacceptable. Ce matin, c'est montrer notre colère et ne pas accepter l'inacceptable. J'ai été très, très étonnée, puisque nous avons plusieurs parents qui sont venus, alors qu'ils n'étaient pas invités. Ils sont venus, et ça nous fait vraiment, à moi et à mon équipe, extrêmement plaisir. On se sent très, très soutenus, et Dieu merci, ce sont leurs enfants. Ce sont nos loulous à nous, mais ce sont leurs enfants.
L'ADEC organise ce soir une réunion avec l'ensemble de l'équipe éducative et les parents pour éviter que ces actes ne se reproduisent. Notez que 2 personnes ont été interpellées par la police municipale. L'enquête continue. Le gouvernement a réagi par voie de communiqué dans lequel il condamne fermement ces actes et réaffirme le rôle sacré de l'école. Condamnation également par voie de communiqué des élus Génération NC de Dimbéa qui déplorent, je cite, des actes barbares d'une extrême gravité. Les récidives de ces jeunes qui empoisonnent la vie des résidents des quartiers qui n'aspirent qu'à une vie tranquille sont intolérables. Ils doivent être lourdement sanctionnés, ainsi que leurs parents ou responsables légaux. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour. Les élus du Congrès ont émis un avis favorable au report des élections provinciales à fin novembre 2025. Et vous, y êtes-vous favorable? Si vous êtes favorable au report des provinciales, vous tapez 1. Si vous êtes opposé à ce report, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier. 82% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils comprennent la décision de prolonger le couvre-feu pour 15 jours supplémentaires jusqu'au 4 novembre. Ils sont à 18% à dire qu'ils ne comprennent pas cette prolongation. Vos rendez-vous d'antenne. La Calédonie accueille à la fin de la semaine une mission d'information du Forum des îles du Pacifique. Elle avait été décidée après les émeutes du mois de mai et a nécessité pour son organisation des échanges entre la France, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les responsables du Forum. Une mission dont nous parlerons demain matin avec Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de France pour le Pacifique, sera en effet notre invitée à 7h30. Autre rendez-vous d'antenne. Le plan PS2R auquel le gouvernement en train de mettre la dernière main résulte en grande partie d'une large consultation des acteurs économiques et sociaux. Alors que le plan doit être connu dans le détail dans quelques jours, sont-ils satisfaits du travail accompli? Quelles sont maintenant leurs attentes? Ce sera le sujet des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu demain midi. Jean-François Bodin recevra deux représentants du monde syndical, Christophe Coulson, le secrétaire général de l'UTCFE-CGC, et Tony Dupré, vice-président de la COGETRA, et deux représentants d'ENSECO, Mime Sidélé, la présidente du MEDEF, et Stéphane Niotto, élu à la CCI.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
La province sud en séance publique demain matin avec un gros dossier, le débat d'orientation budgétaire. Il va mettre en lumière les conséquences des violences insurrectionnelles qui ont débuté le 13 mai. Elisabeth Noir.
La province est en effet confrontée à une perte de recettes de plus de 30%, soit quelques 18 milliards CFP. Et elle va devoir faire des choix difficiles. La collectivité est en effet contrainte de supprimer des pans entiers de ses actions et elle doit envisager des mesures d'économie d'une ampleur inédite. Elle va également devoir réduire de façon drastique son budget d'investissement qui pourrait être divisé par 2, voire par 4. Dans la perspective de ce débat d'orientation budgétaire, la province sud a commencé à lister des pistes d'économie qu'elle serait conduite à faire si elle ne bénéficie pas de ressources nouvelles. Cela va du gel intégral des postes devenus vacants à la réduction massive des subventions aux associations, en passant par la fermeture de tous les CMS, de tous les internats provinciaux et de tous les parcs provinciaux, par la suppression des bourses scolaires ou encore par la fin du soutien aux opérations d'équipement dans les communes et à la diminution de l'entretien et de la mise en sécurité des routes, des pistes qui seront débattues demain lors de cette séance publique qui devra examiner une situation fracassée par les émeutes et les exactions.
La commission permanente du Congrès, réunie cet après-midi, a adopté à l'unanimité les 4 délibérations à l'ordre du jour. L'une d'entre elles concerne des mesures en matière d'urbanisme pour les installations dégradées ou détruites par les émeutes entre le 13 mai et le 12 septembre. La délibération adoptée instaure des mesures de simplification administrative et de réduction des délais d'instruction de certaines demandes de travaux de réfection ou de reconstruction et crée un régime dérogatoire lorsque la construction initiale avait déjà obtenu une autorisation d'urbanisme. Le gouvernement a examiné ce matin, lors de sa réunion hebdomadaire, un avant-projet de loi du pays comportant plusieurs mesures de soutien à la reprise de l'économie. Initialement, ce texte devait être examiné la semaine dernière, mais il a été finalement examiné aujourd'hui pour qu'il soit en cohérence avec les orientations du plan de sauvegarde de refondation et de reconstruction, dont la finalisation a été annoncée hier au terme de 2 jours de séminaire au centre Tchibaou, Jean-François Bodin.
Ce train de mesures qui doit permettre un soutien à la reprise de l'activité économique doit aussi être effectué en rationalisant les dépenses pour le pouvoir d'achat des salariés. Le gouvernement prévoit ainsi de prolonger l'exonération d'impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires. Ce dispositif est en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Il a pris fin le 31 décembre dernier et le gouvernement propose de le prolonger jusqu'en fin 2026. Une mesure censée accorder un gain de pouvoir d'achat aux salariés tout en les incitant à augmenter leur temps de travail. Le gouvernement prévoit aussi de prolonger l'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Cette prime est à disposition des employeurs pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMG brut et peut atteindre 100 000 francs. Le texte prévoit aussi des mesures en faveur des entreprises et de l'activité économique. Ainsi, le plafond des charges déductibles pour les dépenses relatives aux travaux est augmenté. Jusqu'à présent, le total des dépenses engagées ne pouvait faire l'objet d'une déduction fiscale supérieure à 2 millions de francs. L'avant-projet de loi du pays propose de fixer ce plafond à 5 millions. Le gouvernement veut aussi aider les entreprises qui ont dû temporairement ou définitivement cesser leur activité en raison des exactions. Il propose ainsi une mesure d'aide fiscale sous forme d'un amortissement exceptionnel, à l'instar de ce qui avait été fait notamment après le passage du cyclone Erika en 2003. Enfin, le gouvernement prévoit des exonérations fiscales pour les propriétaires d'immeubles victimes de destruction pendant les émeutes, notamment une dispense de contribution foncière.
Le gouvernement est par ailleurs obligé d'adapter la loi de 2019 sur l'interdiction de mise sur le marché de divers produits en matière plastique, Jean-François.
Oui, cette loi adoptée en 2019 interdisait d'importer et de mettre à disposition des sacs ou des barquettes en plastique à usage unique pour favoriser l'utilisation de produits en matière compostable ou biosourcé. Mais le gouvernement note, concernant notamment les barquettes en plastique jetable, que l'offre mondiale des produits biosourcés ne permet pas pour le moment de les remplacer. Le coût des produits de remplacement reste par ailleurs supérieur à celui des barquettes en plastique et oblige aussi les industriels calédoniens à adapter leur processus de fabrication, ce qui génère une hausse des coûts de production et donc du prix à l'achat pour le consommateur. Pour toutes ces raisons, le gouvernement propose donc de supprimer les dispositions concernant les interdictions d'importation de produits en matière plastique. Et sur les barquettes à usage unique destinées à l'emballage des produits alimentaires, le gouvernement entend repousser leur interdiction de mise sur le marché au 1er mai 2040. Toutefois, le gouvernement pourra interdire par arrêté cette fois-ci l'usage des barquettes avant 2040 si les avancées technologiques sur les produits de substitution le permettent.
Merci Jean-François. Le gouvernement qui alerte enfin la population sur les risques associés à certains produits de lissage capillaire brésilien, notamment ceux contenant de l'acide glyoxylique. En métropole, 4 cas d'insuffisance rénale aiguë liés à l'utilisation de ces produits ont été recensés depuis le début de l'année. À 18h passées de 2 minutes, une page de pub dans ce journal avant d'évoquer la suite de l'actualité. Quand le partenariat entre la France et l'Indonésie permet à des apprentis calédoniens de se mettre à l'heure de Jakarta. Tout de suite.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal, Michael Juneski.
Les élèves du lycée Escoffier se sont essayés à la cuisine indonésienne ce midi pour célébrer un partenariat entre la France et l'Indonésie. Un repas était organisé en présence du consul et du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, Léana Colombo.
Un partenariat culturel et éducatif qui prend place en Calédonie, le territoire français le plus proche de l'Indonésie. Le territoire compte d'ailleurs une grosse communauté indonésienne, plus de 4000 personnes. C'est donc un échange qui promet d'être enrichi, comme l'explique Didier Vindatich, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Il faut savoir qu'il existe un accord de partenariat cadre entre le ministère de l'Éducation nationale français et le ministère de l'Éducation indonésien et que c'est notre ministère qui nous a demandé de nous rendre dans une session exploratoire l'année dernière en Indonésie pour commencer à jeter les bases d'un partenariat entre nos deux pays. Le but de ce genre de partenariat, c'est évidemment d'offrir des opportunités de formation linguistique, mais aussi d'insertion professionnelle à nos jeunes calédoniens. On échangera rapidement, je l'espère, des élèves, réciproquement, des professeurs, pour enrichir les relations entre les deux pays.
Au menu ce midi, du lumpia, des beignets de poisson ou encore du poulet goulaï, autant de spécialités indonésiennes qu'ont pu découvrir les lycéens. Pour préparer ces plats, ils étaient aidés de l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie. Thierry Timan en est le président.
L'équipe pédagogique du lycée Escoffier et le vice-rectorat nous ont sollicité l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie pour faire des collaborations culturelles. Et nous sommes là dans le cadre d'un soutien aux élèves, à ces jeunes en devenir, qui nous vont nous faire le plaisir de nous faire déguster les plats indonésiens qu'ils se sont appropriés, qu'ils ont probablement revisités. Donc on a hâte. Et puis voilà, c'est soutenir ces jeunes qui ont fait l'effort d'eux d'apprendre une partie de notre culture indonésienne et puis d'apprendre un nouvel art culinaire.
En plus de ce repas, les élèves ont réalisé des capsules vidéo en anglais présentant dans leurs enseignements, leurs pratiques pédagogiques et culinaires. Elles seront ensuite envoyées aux élèves de Jakarta.
La province sud et la Calédonienne des Eaux ont signé une convention de partenariat ce matin. Un partenariat dans le cadre du dispositif de mentorat mis en place par la province. Un programme qui vise à mettre en contact des jeunes collégiens volontaires et issus de milieux modestes avec des personnels d'entreprise. Les explications de Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud.
Des collaborateurs qui vont donner du temps, de l'énergie pour ces jeunes et qui vont accepter d'être leur exemple, leur confident parfois, qui vont faire découvrir leur travail, mais pas que, qui vont l'ouvrir sur le monde de l'entreprise, mais qui vont ouvrir également sur le monde en général, avec des activités culturelles, artistiques, sportives. Donc c'est une aventure d'entreprise, mais également une aventure humaine au sein de l'entreprise. Donc on peut s'appuyer par des entreprises qui s'engagent, et c'est une vraie chance pour nous, pour la province, et une chance pour ces jeunes.
Une chance pour la province, une chance pour les jeunes et une chance pour les entreprises qui s'engagent, comme la Calédonienne des Eaux. Luc Bourgade est directeur général de la Calédonienne des Eaux.
Ah oui, c'est un engagement mutuel. Il y a le jeune, il y a l'entreprise, il y a la famille. Donc il y a l'ensemble de cette structure éducative et puis les professeurs aussi du collège et des écoles qui forment ces jeunes qui vont s'impliquer autour de ce projet de mentorat. Oui, c'est un projet d'équipe. On le fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'implication. On a réfléchi avec l'ensemble du comité de direction après les événements que nous venons de vivre, quelle pouvait être la contribution de notre entreprise à la refondation, la reconstruction de ce pays. Et on a décidé de s'impliquer dans la formation des jeunes calédoniens, parce qu'on a bien compris que la jeunesse de ce pays avait tiré un signal d'alarme auquel il fallait qu'on réponde aussi.
Depuis le lancement du programme par la province sud en 2023, 19 jeunes calédoniens bénéficient du mentorat. À Nouméa, les conseillers municipaux juniors découvrent la ville au travers d'activités ludiques. Il s'agissait pour leur troisième rencontre d'en découvrir davantage sur l'hôtel de ville et les lieux culturels, Léana.
Les 68 conseillers municipaux juniors ont en effet été invités à découvrir le fonctionnement de la mairie. Étaient présents pour la visite et les explications, le premier adjoint au maire de Nouméa, Jean-Pierre Delrieux. Élu pour 2 ans, ces conseillers en herbe ont vu leur mandat être quelque peu chamboulé en raison de la situation sur le territoire. Mais pas de quoi refroidir l'enthousiasme de ses élèves de CM1, explique Julie Schonenberger, chef du service vie éducative à la ville de Nouméa.
Ils sont toujours intéressants et intéressés. Donc c'est très agréable de pouvoir officiellement marquer leur reprise de fonction, parce qu'ils auraient dû être élus le 15 mai dernier. Donc on est ravis de pouvoir les installer comme on peut aujourd'hui. C'est une mandature qui va être un petit peu particulière, puisque lorsqu'ils sont élus pour 2 ans. Et comme ils ont fait campagne, ils peuvent mettre en place des projets, ce qui risque d'être un petit peu différent pour cette mandature. Mais on sera au maximum avec eux pour du moins leur faire découvrir de nouvelles choses, qu'ils puissent continuer à apprendre. Et pourquoi pas, si nous avons la chance de mener quelques projets à bien.
Place ensuite aux activités culturelles. Pour le reste de la journée, les CMJ se sont séparés en groupes et se sont rendus au musée de la ville, au musée de la Seconde Guerre mondiale ou à la maison Higginson. Inès, Louis-André et Julia sont partis à la découverte de l'exposition Urbain à la maison Higginson. Et ils sont devenus presque incollables sur la ville. Écoutez.
Ce tableau-là, c'est un tableau de Johannes Wauno. Il s'appelle Donyambo Écolo. Est-ce qu'il ressemble vraiment à la SLN ? Il nous propose une vision différente de la vie.
Ils nous font découvrir des choses et on fait des petites activités en même temps. Déjà, on devait regarder le plan de la ville et dire nos 3 couleurs et elles nous font penser à quoi ? Moi, j'ai pris le vert pour la nature, le bleu pour l'océan et le gris pour la route.
Qu'est-ce que tu as découvert un petit peu ?
C'est quoi être habitant de la ville de Nouméa ? La carte de la ville de Nouméa, les pièces qu'il y avait, des tableaux.
On a marqué ici les parcs qu'on va le plus. Moi, j'ai mis des barcadères. Après aussi, le parc de Tendu. Je vais juste aller deux.
Pourquoi tu as voulu devenir conseillère ?
Pour donner des idées aux adultes. J'ai beaucoup d'idées, en fait.
Je suis contente parce que mon frère, il avait déjà fait aussi. Ben, en gros, en fait, je fais comme mon frère. J'aime bien faire ce qu'il fait.
Le prochain rendez-vous est donné fin novembre pour déjà marquer la fin de cette première année de mandature. Le rendez-vous sera donné au CAN, le centre des activités nautiques à Nouméa, pour un après-midi festif.
18h passées de 9 minutes, une dernière page de pub, puis on vous emmènera au campus de Nouville, où la fête de la science a pris ses quartiers ce mercredi. À tout de suite.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Info Soir, la suite, Michael Juneski.
Depuis vendredi dernier et jusqu'au 28 octobre, la fête de la science sillonne le territoire. Le rendez-vous est donné aujourd'hui à Nouville, Léana Colombo.
Et oui, sixième journée de la fête de la science et c'est à l'Université de la Nouvelle-Calédonie qu'on accueillait de nombreux stands cet après-midi. Avec un programme toujours très diversifié, des mathématiques à l'astronomie, il y en avait pour tous les goûts.
Ici, on fait une introduction sur la notion justement de qualité de l'air et celle de la pollution. Et on va s'intéresser notamment aux particules fines.
Oui, on est là pour présenter le projet Reporter en herbe. Ça consiste à créer une vidéo de 2 minutes 30 sur un thème donné. Donc nous avons choisi les requins.
Pour la fête de la science, je vous ai ramené des fossiles marins que l'on trouve en Calédonie, par exemple des nodules polymétalliques qui sont les ressources minérales qu'on peut avoir au fond des océans.
Le plus intéressant peut-être, c'est le planétarium. À l'intérieur, on va vous expliquer les étoiles, les histoires sur les constellations.
On est venu avec des petits ateliers mathématiques, enfin des jeux de logique surtout. Donc on a le jeu de Scrabble, et puis on a proposé une méthode de résolution du Rubik's Cube aussi. On a mis des jeux pour les tout-petits, hein, des tangrammes, on a mis des choses un peu pour les plus grands aussi, donc y en a pour tout le monde.
De nombreuses activités, comme vous l'avez entendu, de quoi ravir les visiteurs venus seuls ou en famille. On écoute ces quelques témoignages.
J'ai su qu'il y avait la fête de la science. Je pensais que c'était intéressant de venir découvrir des choses de la science qu'on n'a pas forcément appris ou qu'on ne découvre pas tout le temps.
J'ai rencontré une doctorante que je ne connaissais pas, qui m'a parlé de sa thèse, de ses formations. Elle a passé 6 mois au Cambodge. C'est intéressant parce que nous, on a l'habitude de lire des articles, d'être face à des papiers. Donc le fait que ce soit des gens qui nous expliquent, c'est plus intéressant.
Moi, j'aime bien. On apprend plein de choses et c'est super cool.
Quand même, j'ai bien aimé le truc là-bas des étoiles.
Qu'est-ce que t'as vu là-bas ?
Les constellations, comme le scorpion, le pégase, le chasseur.
Je suis venue voir le planétarium et le soleil avec mon fils de 3 ans et demi. C'est une très belle occasion de découvrir un peu les choses, surtout qu'en Nouvelle-Calédonie en ce moment on est très limité niveau aux activités. Donc voilà, ça permet un peu aux enfants de découvrir ce monde-là.
L'après-midi s'est clôturé avec une observation des étoiles à 17h et un ciné-débat à 18h. Le programme complet de la fête de la science est à retrouver sur le site internet du CRISICA.
Et puis en marge de la fête de la science, l'Université de la Nouvelle-Calédonie annonce qu'elle a pris part à la création de l'Académie des sciences du Pacifique, basée à Apia, au Samoa. La présidente de l'UNC, Catherine Rice, est membre du comité qui a mis en place cette nouvelle instance scientifique dans notre région. Cette académie a pour ambition de contribuer à porter la voix de la communauté scientifique du Pacifique.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
On termine avec l'actu sport et en métropole, Phoebe Rocher a décroché un nouveau titre de championne de France de kitesurf freestyle, Léana.
Déjà titrée mondialement en septembre dernier, elle s'est imposée dans la catégorie junior pour la 3e fois de sa carrière, tout en poursuivant la compétition chez les seniors. Des championnats de France qui ont débuté lundi dans des conditions compliquées. Mais Phoebe Rocher était forcément ravie aujourd'hui avec ce titre. Vous avez pu entendre sa réaction dans nos précédentes éditions. Ces championnats de France se déroulent à Leucate, dans le sud de la métropole. Et je rappelle qu'un autre Calédonien est engagé cette semaine dans ces championnats de France. Il s'agit d'Antoine Olivier, qui s'est qualifié pour les demi-finales dans la catégorie junior. Il sera d'ici la fin de semaine dans la catégorie open.
18h, passé de 13 minutes, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Michael. Alors cette nuit, sur la côte est, l'extrême sud, l'île des Pins, en début de nuit, puis sur les Loyautés, le temps sera très instable avec un risque de fortes averses et d'orages. Ailleurs, alternance entre nuages et éclaircies, le vent de secteur est soufflera autour de 15 nœuds, sauf sur l'ouest où il deviendra rapidement faible. Des rafales parfois soutenues de l'ordre de 30 à 35 nœuds seront attendues sous les orages ou les plus fortes averses. Les températures oscilleront entre 17 et 22 degrés à l'intérieur et entre 19 et 22 degrés sur le littoral. Demain matin, le temps sera bien ensoleillé sur le sud-ouest. Ailleurs, le ciel sera nuageux avec quelques ondées sur l'est, l'extrême nord, la pointe sud, les îles des Pins. Au Loyauté, les averses seront encore plus fortes, voire orageuses, notamment en début de journée. Ailleurs, le vent de secteur est soufflera entre 10 et 15 nœuds, parfois un peu plus, sur les points nord et sud de la Grande Terre, Michael.
Merci beaucoup, Nicolas, pour la météo, la technique.